Salut tout le monde, c'est Melvin. Et bienvenue sur Round Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Alors aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de reprendre le micro pour relancer le podcast parce que déjà, ça veut dire que c'est bientôt la rentrée. Et puis surtout, ça veut dire que les matchs de handball vont bientôt reprendre. Et après une aussi longue pause, ça fait énormément de bien. Parce que pour moi, vraiment, disputer des matchs, c'est ma raison d'être première dans le handball. J'ai discuté avec plein de joueuses et pour certaines, s'entraîner, c'est formidable parce que c'est vrai que ça nous permet de nous développer, d'avoir du temps pour digérer les nouvelles informations en termes de prépa physique, de technique, de tactique. Mais c'est vrai que, enfin, moi personnellement, je crois beaucoup plus en la frénésie des matchs, aux émotions en fait que ça provoque en moi. Et donc voilà, moi je suis hyper contente de pouvoir vivre enfin cette rentrée. Après, c'est vrai que par rapport au podcast, j'ai décidé de faire une assez longue pause pendant le confinement parce que j'ai choisi en fait de prendre le temps qui s'offrait à moi. Et ça a été le mouvement le plus spontané, le plus naturel en fait pour moi de faire une pause, de pas forcément créer de contenu pour le podcast, même si j'ai interviewé quand même pas mal de joueuses. Mais j'ai choisi en fait vraiment de prendre le temps d'apprécier la solitude. Parce que je me suis confinée seule et ça a été vraiment un beau moment pour moi. Alors, bon, peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, mais ça m'a laissé du temps pour créer, faire des dessins, lire. Mais comme je le disais aussi, interviewer pas mal de joueuses. Donc j'ai quand même des épisodes qui sont prêts, qui sont en stock pour cette rentrée. Et puis, le fait d'avoir été confinée aussi longtemps m'a aussi offert l'opportunité de penser ma présence dans le handball, l'impact du sport sur la société, sa nécessité, et de réaffirmer mes convictions. Parce que voilà, quand il y a un contexte comme une crise comme celle du Covid, tout de suite, le sport féminin est un peu, comment dire, je ne sais pas si c'est mis de côté le bon terme, mais en tout cas, forcément, ce n'est pas une priorité, quoi. Et je l'entends. Après, pour moi, en tant que joueuse professionnelle de handball, je crois vraiment que le sport féminin a son importance, d'abord pour les jeunes filles ou pour les femmes qui sont sportives de haut niveau. Par exemple, moi, les filles que j'ai interviewées m'ont beaucoup inspirée parce que je me suis dit, ah, si j'avais envie d'être maman et que j'écoutais ces joueuses raconter en fait ce par quoi elles sont passées pour le devenir et poursuivre une carrière de sportive de haut niveau, je pense que je serais rassurée ou qu'au moins j'aurais en tête le fait que c'est possible. Et c'est à ça que sert pour moi en grande partie le fait d'avoir une représentation des sportifs de haut niveau et ici des handballeuses parce que c'est mes chouchoutes. Parce que je crois vraiment que la représentation compte. C'est important d'avoir des personnes qui font des choses auxquelles on aspire. Alors pas forcément de la même manière parce que on a toutes et tous un parcours singulier. Mais en tout cas, avoir accès à un champ des possibles qui est très large, je pense que ça permet d'éviter l'autocensure en fait. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà ce à quoi j'ai réfléchi pendant le confinement. Alors bien sûr, il y a d'autres réflexions, hein, mais ça, je vous le partagerai dans les épisodes à venir. Et donc voilà, moi, je conçois tout à fait que le sport ne soit pas une priorité sur le plan financier, économique et encore. C'est vrai que je ne maîtrise pas tout à fait l'économie du sport et l'impact de l'économie du sport sur l'économie globale. Mais je crois vraiment qu'en termes de symboles, de valeurs, enfin, il y a quelque chose qui est propre au sport, qu'on ne peut pas lui enlever, qu'on trouvera nulle part ailleurs, je crois. Enfin, on l'a encore vu lors de la finale de Ligue des Champions au foot, comme tout Paris s'est soulevé, même la France. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne regarde pas le foot se sent concerné, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment la manière dont je me suis réveillée, en fait, du confinement. C'est de me dire, alors on va certainement reprendre, mais il va falloir reprendre différemment, avoir des positions qui soient affirmées parce que si on veut que le sport féminin continue à exister et soit toujours aussi sur un aussi bel élan, il va falloir le défendre, il va falloir le montrer, montrer qu'il a sa place dans l'écosystème et moi vraiment j'y crois quoi. Et pour revenir au podcast, j'ai décidé d'intituler cette nouvelle saison « Penser à un handball féminin ». C'est vrai que c'est un titre qui sonne assez large, mais c'est voulu. Parce que, dans un premier temps, j'ai envie de mettre la lumière et de valoriser tout ce qui fait la spécificité de la sportive de haut niveau. Je l'ai déjà commencé l'année dernière en parlant de maternité, mais là j'ai envie d'aller un peu plus loin et par exemple de présenter dans certains épisodes l'impact du cycle menstruel sur la performance. Parce que je crois qu'il existe plein de préjugés sur les règles. Déjà, je pense qu'on est très peu nombreux, trop peu nombreuses, à savoir qu'il s'agit d'un cycle et donc d'une énergie qui peut être tout à fait au service de la performance. Et voilà, quand j'ai fait des recherches là-dessus et même une formation à ce sujet-là, j'ai découvert des choses formidables et je me suis dit, ah ouais, ça vraiment, si on va au bout de ce potentiel-là, si on va chercher à comprendre ce qui se passe en nous, si on va chercher à le partager avec les personnes avec lesquelles on travaille, on peut vraiment aller encore un peu plus loin, je pense, dans la professionnalisation du métier, quoi. Donc, ça, c'est une des problématiques propres au féminin que j'ai envie de traiter cette année. Mais il y en a d'autres. Par exemple, je ne sais pas moi, le fait financier et économique. Parce que forcément, quand on parle de handball, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire l'amalgame entre le secteur féminin et le secteur masculin. Parce que quand il y a des droits télé, bah, ça n'a pas les mêmes répercussions en fait, salariales sur les joueurs ou les joueuses. Donc, je crois vraiment que c'est important de considérer les joueuses comme des joueuses et pas comme des joueurs au féminin et calquer un modèle en fait, qui a très bien fonctionné chez les garçons, mais qui finalement n'est pas propre à la spécificité féminine et à la réalité en fait, du terrain pour ce qui est le fait d'être une femme et faire du sport de haut niveau. D'ailleurs, à ce sujet, pendant le confinement, j'ai aussi eu une conversation avec Eric Barada, qui est entraîneur national en charge de la structuration du handball féminin et avec lequel on discutait en fait de toute la négociation qu'il y a eu pour le calendrier de cette nouvelle saison. Je vous partagerai peut-être ça dans un nouvel épisode si ça vous intéresse. Mais surtout, on a pris le temps justement de parler de ces différences fondamentales entre le fait d'être joueuse professionnelle de handball et joueur.
Les problématiques du handball féminin et du handball masculin sont fondamentalement différentes. Je m'explique. Bien évidemment, alors en préalable, mon propos n'a rien de féministe. Il est purement pragmatique, il est factuel. Première chose, les salaires. On ne parle pas de la même échelle salariale. Quand on parle de négociations sur les salaires, quand on parle de pourcentage sur un salaire, un pourcentage sur 15 000 euros ou un pourcentage sur 2 500 euros, ça ne représente pas la même chose. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a quelques joueuses qui gagnent très très bien leur vie dans le handball féminin, bien entendu. Les top players européennes gagnent très très bien leur vie. Et c'est bien légitime au regard du spectacle qu'elles produisent. La deuxième chose qui fait fondamentalement la différence et qui impacte évidemment les salaires, on l'a abordé tout à l'heure, ce sont les droits télé. Aujourd'hui, le sport féminin, pas le handball féminin, le sport féminin, hormis le foot qui, grâce aux efforts, à la volonté politique du président de la fédération et du poids qui est le sien, Noël Le Graët, qui fait que le football féminin est diffusé sur Canal+, dans des stades à moitié vides, dans un spectacle sportif qui ne vaut pas le handball féminin, mais en dehors de ça, en dehors de ce contre-exemple, le sport féminin n'est pas télédiffusé. Et c'est un des combats de la ministre, de Roxana Maracineanu, à nous, d'accompagner, d'aider, d'inciter les diffuseurs à proposer plus de sport féminin à la télé. Mais il est bien évident que entre diffuser et payer des droits pour diffuser, il y a encore une marge. Donc aujourd'hui, on n'en est pas au stade de se battre pour obtenir des droits qui, quelque part, après seraient reversés dans l'économie des clubs et, par voie de conséquence, dans les salaires des joueuses. Il est bien évident que quand tu as un écart, comme le championnat masculin qui, l'an dernier, était diffusé, il faut bien considérer ça, sur Bein, en milieu de semaine, avec tous les matchs diffusés. Tu voulais voir Ponto Combo contre Ivry, tu voyais Ponto Combo contre Ivry. Et puis, le handball féminin, où on a, pas à toutes les journées, un match diffusé sur Sport en France, la chaîne du Comité National Olympique, Et puis, bien évidemment, après, on peut regarder les matchs sur la plateforme interne d'Artfish, mais ça n'a rien à voir avec une télédiffusion, bien entendu. Et c'est un réseau privé pour les acteurs du handball féminin. Donc, ça fait une deuxième, notable différence. Troisième différence, et celle-là, elle est fondamentale, au-delà de tous les aspects économiques. La réalité aujourd'hui d'une jeune fille à fort potentiel, qui intéresse le monde professionnel à la sortie de son pôle, elle est très différente de celle d'un jeune garçon. Hormis quelques, on va dire, avions de chasse, si tu me permets cette expression-là, au masculin, type Nedim Remili, type Dikamem, type Ludo Fabregas, qui ont très très tôt joué au meilleur niveau national, un garçon, quand il rentre en centre de formation, il passe 1, 2, 3 ans à être véritablement en centre de formation. C'est-à-dire que c'est un apprenti professionnel. Les jeunes joueuses de handball professionnel aujourd'hui, quand elles sortent du pôle, elles sont directement versées pour la plupart d'entre elles, pour celles qui ont le plus de chances de devenir professionnelles, pour celles qui vont renouveler véritablement l'activité, elles sont versées à minima à l'entraînement avec les pros, mais très souvent sur la feuille de match. Parce que la réalité des choses, c'est que sur une feuille de match à 14 joueuses en LFH, tu as très régulièrement, hormis quelques clubs un peu mieux lotis, qu'on connaît, hein, les plus aisés, sinon tu as très régulièrement 3 à 4 joueuses de centre de formation sur la feuille de match, qui sont à statut donc convention de formation, donc dans le meilleur des cas, elles ont un contrat stagiaire, mais souvent elles ont grosso modo, pour faire une caricature mais qui est réaliste, on leur paye l'appartement, 150 euros pour se nourrir, mais la réalité des choses, c'est qu'elles vivent exactement la même vie qu'une joueuse professionnelle de handball, avec toutes les contraintes, à savoir que quand il y a match le mercredi à l'autre bout de la France, il faut qu'elles y soient. Ça, c'est un premier élément. Donc, une fondamentale différence entre ce que c'est devenir une joueuse professionnelle de handball et ce que c'est devenir un joueur professionnel de handball. Déjà, ça, c'est une fondamentale différence. Deuxième différence que peu de gens peuvent connaître, quand je fais le comparatif entre les profils socio-professionnels des jeunes handballeurs d'élite et des jeunes handballeuses d'élite, je suis bien placé pour en parler puisque j'accompagne... je veux dire, pas à pas dans leur cursus et les jeunes joueuses au moment où elles sont en pôle et où elles sont dans la transition pour aller vers un centre de formation, puis devenir professionnelle. J'ai les meilleures d'entre elles en charge en sélection nationale, en U19, U20. J'ai les meilleures d'entre elles, celles qui ont le plus de chances demain de se retrouver dans un club de Champions League, de devenir international A. 80% de la population du handball féminin est une population de jeunes filles qui sont plutôt brillantes scolairement, ce qui est quasiment la proportion inverse, ce qui ne veut pas dire que le handball masculin n'est fait que d'être ascolaire, loin de là. Il y a des gens brillants dans leurs études dans le handball masculin. Mais la proportion, un jeune garçon à 17 ans, à la sortie du pôle, ce qu'il veut, c'est devenir handballeur professionnel. Et il va mettre... avec l'aval de son environnement familial, il va mettre quelque part un peu tous les œufs dans le même panier et il va faire du handball. Parce que demain, l'enjeu en vaut la chandelle. Le pari qu'il fait, s'il en a le potentiel, le pari qu'il fait, il aura le temps, dans la deuxième moitié de sa carrière, de penser à sa reconversion. Et donc, à 17 ans, 18 ans, il lui faut pendant 2-3 ans démontrer à son club qu'il est apte à obtenir un contrat professionnel. À l'inverse, une jeune joueuse de handball, aussi douée soit-elle, aussi talentueuse soit-elle, aussi potentielle soit-elle pour devenir une grande joueuse de handball, quand elle regarde ce qu'il va lui falloir faire à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, avant d'obtenir un contrat professionnel, et ce qu'elle va gagner quand elle va avoir un contrat professionnel, quand on pèse les deux, il y a un décalage qui est énorme. Et 80% de cette population-là, est une population qui a d'abord qui est plutôt brillante scolairement, il faut dire ce qui est. Et ces jeunes filles-là, on leur dit, tu vas faire du handball professionnel, tu peux faire du handball professionnel. Si on ne prend pas en compte le fait que, oui, elles sont prêtes à faire un certain nombre de sacrifices pour vivre de leur passion, parce que s'il n'y a pas de passion pour l'activité handball, c'est impossible de le faire. Oui, elles sont prêtes à ça, mais en même temps, elles ne sont pas prêtes à faire tout et n'importe quoi. Or, notre système fait que ces jeunes filles-là, qui sont à fort potentiel, et tu en es un exemple, Melvin, si elles ne sont pas hyper structurées, hyper organisées, si elles n'ont pas une volonté forte de mener de pair à la fois leur cursus socio-professionnel et leur vie de handballeuse de haut niveau, c'est la quadrature du cercle. Donc c'est pour ça que je dis que quand on veut représenter les handballeurs masculins et les intérêts des handballeuses féminines, on parle de deux populations qui sont totalement différentes. Ce n'est pas la différence homme-femme, ce n'est pas la différence biologique qui rentre en ligne de compte. Oui, certainement, il y en a. Oui, on peut débattre pendant des heures sur est-ce que le handball féminin est un handball aussi physique? Est-ce que on peut débattre pendant des heures? C'est philosophique, ça. Je veux dire, tout est dans la proportionnalité. Ça, c'est un débat philosophique. Par contre, ce qui est extrêmement factuel et qui n'est pas philosophique, c'est que l'économie, ce dans quoi tu t'engages, les gains potentiels et les pertes potentielles, ce ne sont absolument pas les mêmes. Donc, si aujourd'hui, moi, je serais un ardent défenseur, je l'ai toujours été, je pense être réputé un peu pour ça auprès des joueuses, moi, je suis un ardent défenseur de l'idée, oui, tu peux faire du handball de haut niveau, et oui, tu peux faire un cursus socio-professionnel de haut niveau. Bien entendu, il va peut-être falloir que tu l'étales dans le temps, il va falloir l'aménager. Et toutes les meilleures handballeuses françaises, on pourrait donner une liste longue comme un jour sans fin, et t'en connais plein, de joueuses que nous accompagnons là-dedans. Mais pour autant, il faut aussi que l'environnement professionnel ne considère pas qu'il y a une joueuse et de l'autre côté, il y aurait un individu. C'est la seule et même personne, c'est la seule et même personne qui, à 17 ans, 18 ans, va essayer de construire son avenir socio-professionnel, tout en sachant qu'on ne peut pas faire du haut niveau et aller au même rythme que les autres. Peut-être qu'il faut étaler dans le temps. Je veux dire, tout ça, c'est très singulier. C'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est totalement singulier, c'est du cas par cas. Mais il faut aussi que tout l'environnement se rende compte que ces jeunes joueuses sont une partie du handball professionnel. Donc, ne pas s'adresser à la population des joueuses qui sont en centre de formation comme une population spécifique, alors qu'elles vivent, pour beaucoup d'entre elles, exactement la même vie qu'une joueuse professionnelle, est à mon avis un non-sens.
Vraiment, ma volonté pour cette saison, c'est de mettre la lumière, de valoriser, de montrer, de dire les problématiques propres aux joueuses, mais pas que, hein, c'est aussi partager leurs expériences, partager leurs doutes, leurs questionnements, leurs conseils, de manière déjà à créer une espèce de réseau alumni entre nous pour que bah, ça puisse servir à des jeunes joueuses, mais aussi à des joueuses qui sont en carrière, et pour le simple plaisir de partager en fait des philosophies de vie. Et cette démarche, je la fais surtout parce que pendant le confinement, j'ai aussi réfléchi à la place que les joueuses ont dans les processus décisionnels ou même dans la ligue en général. Souvent, j'entends dire que on plaint ou qu'on déplore l'absence de joueuses et de leur implication. Lorsqu'on les consulte ou lorsqu'on fait appel à nous, je pense qu'en fait on est toutes impliquées à notre manière, à notre échelle et selon notre domaine de compétences. Et en partageant en fait les voix des joueuses, ben, je voulais aussi rappeler qu'on est là quoi et que nous aussi on fait en sorte que notre ligue soit belle, que notre championnat soit beau et agréable à regarder et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Le podcast reprend officiellement ce dimanche 6 septembre avec pour invité Atadou Sakho dans un épisode que j'ai intitulé Parce que tous les chemins mènent à Rome. On parle d'instant présent, on parle aussi de son parcours sportif parce que je crois qu'elle n'a pas eu tout à fait un parcours qu'on pourrait qualifier de classique. Et au fond, ce qu'on s'est dit avec Atadou, c'est que puisque chacune d'entre nous est singulière, chacun de nos parcours l'est aussi. Et on voulait vraiment partager cette idée avec le plus grand nombre. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré le regard d'Atadou sur cette question. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode. Et puis, j'attends vraiment vos commentaires. C'est toujours à la même adresse, handpaperspodcast@gmail.com. Et puis, on se retrouve donc sur Spotify, encore, Google Podcast, un dimanche sur deux à 11h. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de vous lire ou d'écouter vos vocaux, parce que ça donne de la force, quoi. Donc voilà, bonne rentrée, vive le handball féminin, et puis à très très bientôt sur Handpapers.